Paradoxalement, le premier conseil que je donnerais, c'est de ne pas se sentir bloqué par la règle de droit.
Bienvenue dans le podcast Activer l'économie circulaire.
Je suis Brieux Saffray.
Je suis Justine Laurent.
Nous sommes fondateurs de l'agence de conseil et design circulable. Nous travaillons avec les entreprises, collectivités et entrepreneurs pour concevoir leurs stratégies, produits et services et ainsi apporter des solutions aux enjeux de ressources et de résilience des territoires.
Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de dirigeants ou de porteurs de projets qui appliquent les principes du vivant et la pensée systémique pour concilier développement économique, inclusion sociale et régénération des écosystèmes.
Vous pouvez nous retrouver sur le site circulab.com ou sur les réseaux sociaux.
Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour rester à jour sur les meilleurs exemples d'économie régénérative.
Bonne écoute à vous.
Bonjour Karl, merci de me recevoir dans tes bureaux. C'est un plaisir pour moi de t'inviter donc sur le podcast Activer l'économie circulaire. Est-ce que déjà tu peux te présenter un petit peu s'il te plaît?
Très volontiers, bonjour Brieux, bonjour à tous. Moi je suis avocat, ça fait une vingtaine d'années à peu près que j'exerce comme avocat. Et dans mon parcours professionnel, je me suis orienté, et j'ai été identifié depuis déjà un certain nombre d'années comme spécialiste entre guillemets en économie circulaire. C'est le résultat d'un parcours qui a commencé dans les années 2000, ma première expérience professionnelle au sein du cabinet de Corinne Lepage en droit de l'environnement. M'a conduit à m'intéresser et à me passionner même pour le droit de l'environnement industriel. Et puis par la suite, quand j'ai créé mon cabinet en 2012 et les années qui ont précédé cette période, j'ai eu le souci de trouver une singularité professionnelle vis-à-vis de mes confrères. Et cette singularité, je l'ai trouvée à travers des professions, des activités émergentes. Et c'était d'une part le droit des énergies renouvelables, par rapport au droit des énergies fossiles, et d'autre part, le droit de l'économie circulaire par rapport au droit de l'économie linéaire. Et dans les deux cas, il se trouve que c'est les deux domaines d'activité de principaux de notre cabinet aujourd'hui, dans les deux cas, il y a eu un fort écho, puisque a priori, cette spécialisation répondait à un besoin, avec peu d'offres de confrères en la matière.
Et puis effectivement, je pense que au début des années 2000, à part le cabinet de Corinne Lepage sur le sujet de l'environnement, il ne devait pas y en avoir beaucoup.
Pas des masses, effectivement. Oui, c'est un cabinet qu'on appelle pionnier ou historique en la matière, qui a formé plusieurs générations d'avocats, la plupart excellents. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelques cabinets d'avocats, un certain nombre, même en droit de l'environnement, en France, notamment principalement à Paris, mais avec des spécialités diverses. C'est un secteur, mais qui lui-même comporte des spécialités. Il y a les cités sols polluées, il y a la protection de la nature, biodiversité, il y a le droit de l'eau. Donc au sein de cette matière, qui est déjà une matière assez spécialisée, on a des compétences diverses. Et puis alors l'économie circulaire, au milieu de tout ça, ça fait appel à l'environnement, mais pas seulement. Donc moi, c'est la porte d'entrée en fait qui m'a conduit à ce secteur, à l'économie circulaire. Cette porte d'entrée, elle m'a ensuite amené à devoir, pour pouvoir répondre aux besoins, aux questions qui nous sont posées, à devoir nous spécialiser ou nous intéresser à d'autres sujets tels que la santé publique, la consommation, le droit européen, des matières qui gravitent autour de cette question.
Et justement, les problématiques que tu traites principalement aujourd'hui, enfin les types de problématiques que tu traites aujourd'hui, ce sont lesquels dans ce droit à l'environnement, donc l'aspect économie circulaire et tout ce qui est nouvelles énergies?
Alors, c'est assez différencié. C'est autant pour ce qui est du secteur des nouvelles énergies, on a une activité que je qualifierais assez traditionnelle de cabinet d'avocat, c'est-à-dire qu'on est à peu près à 50-50 sur du contentieux et du conseil. On vit beaucoup du syndrome « not in my backyard », pas bon chez moi. Donc ça, c'est vrai qu'en France, l'acceptabilité sociale des projets génère du contentieux et donc des besoins en compétences juridiques avec des enjeux économiques à la clé assez forts parce que y a, en raison de modèles économiques avantageux, il y a un appel d'air pour des gros investisseurs sur ces projets-là.
Donc quand tu parles de nouvelles énergies, c'est aussi bien tout ce qui est éolienne, éventuellement peut-être aussi projet de méthanisation?
Alors oui, ça peut, bien sûr, éolienne, solaire, hydrolienne. Il y a des énergies qui sont déjà matures, avec des marchés consolidées, puis il y en a qui sont émergentes. Et il y a effectivement la production d'énergie via la méthanisation, via tous les modes de valorisation, combustion de la biomasse qui existent aussi. Et qui sont là, cette fois-ci, à la frontière, hein, entre le déchet et l'énergie.
Donc
là,
c'est clair.
On fait le lien entre les différents sujets, avec des enjeux de ressources qui sont très différents, hein, de ceux des énergies renouvelables classiques, le vent, le soleil.
Oui, là, nettement plus complexe, avec beaucoup plus d'acteurs dans la chaîne.
Absolument. On a des enjeux de captation des ressources. Si elles ne vont pas pour tel usage, elles vont pour tel autre usage. Mais à ce moment-là, c'est telle filière historique de traitement de ces ressources qui va éventuellement subir des conséquences. Donc il y a des sujets de cette nature qui sont soulevés.
Donc ça, c'est plus sur l'aspect énergie. Est-ce que sur l'économie circulaire, tu as d'autres aspects
Alors sur l'économie circulaire stricto sensu, on est pas mal sollicité, soit en qualité d'AMO juridique, d'assistant à maîtrise d'ouvrage sur des compétences juridiques, sur des projets de développement, soit d'une activité proprement dite, soit d'une installation, soit d'un, ce que je qualifierais d'un business model, ou bien on vient être consulté pour des études de marché, de faisabilité juridique de telle ou telle opération. C'est-à-dire que nos clients, qui sont des opérateurs économiques, c'est-à-dire aussi bien des PME que des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, ou bien des groupes, hein, on a quelques filiales de groupes cotés également, voire des groupes eux-mêmes directement, notamment dans le secteur du BTP, eh bien, ils ont bien senti qu'il y avait un vrai sujet à ne plus gaspiller les ressources, donc, quelque part, à économiser ce qu'on appelle ce qu'on qualifie de déchets. Donc il y a ce sentiment ou cette conscience plutôt de devoir limiter ce qu'on qualifie les externalités négatives dans les process. Et donc il y a souvent des besoins qui viennent de direction R&D des groupes recherche et développement. Donc c'est des ingénieurs qui à un moment de leur projet constate qu'il y a un besoin en accompagnement juridique. Donc on vient en accompagnement juridique fournir de la base solide, la plus solide possible en tout cas, parce qu'on verra au cours de notre échange que le droit ça fait pas tout en matière d'économie circulaire, c'est pas la panacée même si c'est une composante importante. Donc il y a ce recoupement avec les compétences juridiques pour dire mais est-ce que on répond à un cadre légal et réglementaire? Oui ou non, et est-ce que peut-être son évolution, parce que cette spécialisation qu'on revendique, elle nous conduit à beaucoup devoir anticiper sur l'évolution du cadre juridique. C'est ça aussi qui est passionnant, hein, c'est que c'est le cadre national et européen naturellement, et donc on est sans cesse en train de pousser, et des idées qu'on revendiquait il y a quelques années, qui n'étaient absolument pas retenues, notamment par exemple sur des sujets aussi pointus que le sous-produit, le by-product, où on n'avait aucune écoute au ministère de l'Environnement, et ben je m'aperçois que là, en 2018, ça y est, ils sont venus à considérer que c'était un vrai sujet intéressant, et par exemple, de promotion d'économie circulaire via la reconnaissance du statut de sous-produit. Voilà, c'est une illustration. Donc on essaye d'anticiper, on est un peu des architectes de cadres juridiques applicables. Donc on est vraiment sur cette échelle-là en matière d'économie circulaire, ce qui est assez atypique puisque finalement, il faut des budgets pour consacrer aussi des... Alors souvent, il y a parfois des fonds ADEME qui sont mobilisés pour indirectement sur les études que l'on mène. Et on a le plaisir d'être en relation avec des bureaux d'études, d'autres experts... parce que c'est un sujet qui fait appel à des compétences pluridisciplinaires.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que il y a une autre personne qu'on a été rencontrée qui a mis en place son produit, qui s'appelle Circouleur, c'est-à-dire qu'elle récupère les fins de pots de peinture, disons, et elle a dû recréer, ainsi, vraiment participer à la rédaction de tout l'aspect légal, parce que c'était complètement inimaginable jusqu'à présent. Et effectivement, elle a dû non seulement travailler sur son produit, mais sur tout l'aspect légal en plus pour mettre son produit sur le marché. Et donc ça m'étonne pas parce qu'effectivement, il y a plein de choses à faire, quoi.
Ouais, ça nous permet. Enfin, si tu le veux, on pourra parler justement de l'approche de l'économie circulaire par le droit et les relations en essayant d'être simple d'accès, bien sûr, mais c'est un bon exemple, effectivement.
Bah, justement, pour prendre un petit peu de recul, au milieu des années 2000, il y a eu des premières lois CAD qui sont apparues en Chine, en Allemagne, enfin, en tout cas, à ma connaissance. Là, en France, c'est beaucoup plus récent. Est-ce que, justement, tu peux nous dire un petit peu où on en est aujourd'hui en termes de loi cadre pour l'économie circulaire en France?
Oui, c'est une question qu'on peut se poser. Hein. La France, certains hommes politiques ou acteurs en France militent pour une loi cadre sur l'économie circulaire qui n'a pas vraiment, qui n'a pas été adoptée à ce jour. Hein. Mmh. On a une loi qui est la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015. Qui comporte un chapitre entier, enfin la moitié du texte de loi est consacré, un titre entier est consacré à l'économie circulaire, à la croissance verte et indirectement à l'économie circulaire. D'ailleurs, c'était une loi qui était à l'origine dédiée à la transition énergétique, et puis au cours des travaux parlementaires, s'est adjoint tout un volet croissance verte et économie circulaire. Donc ce parcours est assez intéressant parce que ça a été un peu itératif, c'était pas une volonté initiale du législateur, mais elle s'est rajoutée et il y a eu un assentiment de la part du législateur sur l'intérêt de cela. Donc il n'y a pas eu un outil juridique pensé complet en la matière. Mais je suis pas sûr qu'on soit vraiment en mesure de le faire en réalité.
Ouais.
Bah, parce que quelque part, de la même manière qu'on peut dire que le droit de l'environnement, ça devrait ou ça pourrait être le dénominateur commun de toutes les politiques publiques, quelles qu'elles soient,
yeah, tout à fait.
De passer ça par le filtre du droit de l'environnement, bah, l'économie circulaire, ça peut être à peu près la même chose.
Mm-hmm.
La difficulté qu'on a même à la définir, est-ce que c'est un concept, est-ce que c'est...
Il y a une définition différente par acteur.
Il y a autant plusieurs définitions qui coexistent. Ça témoigne... on peut considérer que ça témoigne de la jeunesse du projet, ce qui est vrai, ce qui est récent à l'échelle, cas, du monde économique et des différentes révolutions industrielles qu'il a subies. Et d'un autre côté, ça montre aussi le côté extrêmement globalisant de l'approche économie circulaire. Et donc cette approche globalisante, finalement, elle implique que ça innerve l'ensemble des secteurs de la société. Et donc forcément, ça va prendre un certain temps. Au niveau européen, pour répondre à ta question, c'est vrai qu'à l'échelon européen, on fait remonter ce concept à une directive de 2008, qui est la directive cadre déchets.
Qui hiérarchise les différents traitements.
Qui a fixé la hiérarchie des modes de traitement et qui, de la même manière qu'on dit que la bonne énergie, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas, eh bien, elle dit le bon déchet, c'est le déchet qu'on ne produit pas. C'est reduce, reuse, recycle, les trois R, et donc effectivement qui fait la promotion du réemploi avant le recyclage, avant l'élimination. Et cette hiérarchie qui est quelque chose d'extrêmement cohérent, hein, quelque part, avec l'économie circulaire et qui n'a pas vocation à devenir obsolète, je pense, à court, ni à moyen, ni à long terme, elle est assez structurante, mais après, il faut voir qu'en pratique, elle est susceptible de remettre en question des modèles juridico-économiques qui existent depuis des décennies.
D'accord. Ouais.
Là, j'en viens à mon petit laïus sur l'origine du droit. Si tu veux, le droit, il vient, en quelque sorte, la règle de droit, elle vient transcrire la volonté ou les rapports de force de la société à un moment donné. Donc le droit, à ce titre, on peut dire qu'il est assez conservateur ou traditionnaliste.
Ouais.
Hein, puisque si une règle de droit a été adoptée, que ce soit dans la loi ou à travers la jurisprudence des juridictions, eh bien, c'est l'expression de la volonté du corps social. Donc, deux siècles, on va dire, après la révolution industrielle, on a un état du droit qui correspond à des modèles économiques que nous connaissons, certains plus ou moins vertueux, et qui globalement sont quand même, pour une bonne partie, linéaires, produire, consommer, jeter. Donc passer de cela vers un modèle qui se veut circulaire, eh bien, c'est forcément, ça implique forcément de repenser la règle de droit, mais tout en l'adoptant de manière progressive, parce qu'il ne s'agit pas non plus faire la promotion d'un nouveau modèle en tuant le précédent. Il faut que la transition se fasse de manière équilibrée, pour tout un tas de raisons, concurrence internationale, viabilité des marchés, etc., etc. Donc, l'enjeu, il se situe à ce niveau-là. C'est pourquoi 2008, directive européenne, aujourd'hui, nous sommes en 2018, ça fait 10 ans, on est vraiment à la naissance de ça, mais les choses, beaucoup de choses ont déjà...
À 10 ans, à l'échelle du droit, tu t'estimes que c'est vraiment...
C'est peu, c'est très peu. On a vu que nous, les premiers dossiers qu'on a suivis, concrètement, qu'on fait le début de la réputation du cabinet, c'est les premiers dossiers de sortie de statut de déchet au niveau national.
D'accord.
2014 sur la biomasse pour un usage en chaufferie, valorisation énergétique. Ça a mis déjà plus d'un an, un an et demi à sortir, et c'était les premiers dossiers au niveau réglementaire. Depuis cette date, ça fait 4 ans, les choses ont pas mal évolué. Il y a certains sujets qui ont progressé, d'autres qui ont reculé. Il y a des réformes qui avaient été envisagées qui finalement n'ont pas été menées jusqu'à leur terme parce qu'on s'est aperçu que c'était pas viable. Voilà, c'est la préoccupation de l'économie des ressources. Elle remonte même plutôt aux années 70, en fait, la conscience de la finitude du monde, de le premier ministre de l'environnement en France, c'est plutôt les années 70, exactement. Là, pour le coup, ça fait 40 ans, c'était à peu près à ma naissance, mais il y a certains sujets qui n'ont pas tellement évolué depuis. Il y a certains sujets qui n'ont pas vraiment évolué.
Tu penses que c'est plus des sujets qui ont tendance à bouger sous la contrainte ou et rarement par clairvoyance ?
Ah, ça, c'est une excellente question. Le droit de l'environnement évolue sous le coup des catastrophes environnementales, le plus souvent, si on s'en tient à cette matière. Que ce soit les chocs pétroliers, les marées noires, pour un exemple, ou que ce soit les accidents industriels, pour les lois en matière de protection des riverains sur les risques industriels. Bon, voilà, c'est un fait. Après, on peut quand même concevoir qu'aujourd'hui, l'échelon européen permet, quelque part, de valoriser les bons comportements des élèves les plus vertueux de la classe européenne.
Ouais.
Et c'est pas forcément toujours les Allemands et les Hollandais et les Belges, même si il faut bien reconnaître que sur certains sujets, ils sont quand même, notamment les Flamands, par exemple, par rapport aux Wallons, ils ont une expertise, ils ont un savoir-faire en matière d'économie circulaire qui est précieux. Et donc, ça permet finalement de tirer un peu le bus Europe, et y compris les élèves qui seraient un peu moins performants en la matière. Et donc ça, on est plus là sur le coup d'équilibre et d'accord que sur des catastrophes ou des conséquences liées à des catastrophes.
Surtout qu'effectivement, en termes plus là, business, économique, les Pays-Bas ont tendance à avoir la réputation d'être un pays assez actif sur le sujet de l'économie circulaire, donc ça ne m'étonne pas trop que sur l'aspect réglementaire, tu les retrouves.
Ils ont clairement 20 ans d'avance, c'est un peu une banalité de dire cela, mais je confirme, il faut bien le reconnaître. Sur les différents secteurs sur lesquels on intervient. Alors après, si on regarde dans les détails, on peut trouver tout un tas d'explications. Et ils n'ont pas le même parcours, ils n'ont pas la même géographie.
Aussi,
tout simplement. Absolument. Et ils ont d'autres défauts que n'ont pas les Français. Mais pour ce qui est de ce sujet-là, notamment sur l'appréciation des seuils, c'est-à-dire le rapport au principe de précaution. Je pense qu'ils ont une maturité que nous n'avons pas. Nous, en France, on en est encore.
C'est binaire.
On est un peu, pour caricaturer, le champion du monde des idées, mais pour la mise en œuvre, on fait le Minitel. Et on fait à Paris l'Autolib, si tu veux. Voilà. C'est-à-dire que ça, des fois, c'est rageant de voir que ce tissu d'initiatives locales, et là, c'est pas pour flatter Wita ou d'autres acteurs, d'autres PME, mais c'est vrai qu'on a des initiatives nombreuses, mais à un moment, on voit que c'est repris, c'est noyé peut-être dans des consensus, dans des arbitrages qui vont tout de même laisser des acteurs historiques s'exprimer. Et c'est peut-être moins le cas dans d'autres pays européens où le tissu, l'importance des PME est mieux pris en considération, mieux valorisé. Et ça se traduit effectivement sur ces sujets-là.
Oui, tout à fait. C'est un aspect que j'imagine même pas se faire écouter des plus grands. Et justement, tu penses que on va arriver à des... Enfin, je veux dire, il y a un tissu, effectivement, enfin, je veux dire, il y a un terrain sur lequel on peut progresser, mais est-ce que tu penses qu'il y a vraiment des marges de progression, justement, sur tout l'aspect réglementaire, ou on va rester comme ça sur de la réaction ?
Alors,
mis à part les suggestions européennes, comme tu l'évoques.
Alors, les marges de progression sur l'aspect réglementaire, c'est essentiellement de faire tomber un certain nombre de barrières qui sont des barrières à l'entrée, des freins. Hein. La plupart des études, des colloques ou des discussions qui ont lieu sur le sujet, c'est freins et leviers en matière d'économie circulaire. En tout cas, lorsqu'on appelle le juriste, c'est un peu pour s'exprimer sur ces sujets-là. Donc, les freins, effectivement, c'est un sujet important. C'est peut-être mettre fin à la surinterprétation de la règle de droit, mettre fin à l'excès de zèle. Notamment, j'en reviens au principe de précaution sur les seuils. Parce que si, effectivement, parce que l'on part d'une feuille blanche en matière d'économie circulaire, ça peut être assez facile d'adopter des mesures de sécurité qui vont rassurer l'administration en prévoyant des analyses, des rapports d'analyse, une traçabilité, un certain nombre de mesures qui, sur le fondement, sont tout à fait légitimes, mais qui, peut-être dans leur quantité, vont être excessifs par rapport à d'autres modèles économiques plus traditionnels qui s'en sont exonérés depuis longtemps, ouais, et qui pourtant fonctionnent avec des risques.
Tout à fait. Ouais.
Donc accepter que le risque zéro n'existe pas, y compris en économie circulaire, c'est quand même une condition importante. Parce que si on commence à vouloir systématiquement analyser, connaître, procéder par... des échantillonnages sur des matières qui vont être recyclées, par exemple, ou réemployées, ça peut vite atteindre des coûts qui ne seront absolument pas à l'échelle de ce nouveau modèle économique qui, pour une partie, est encore fondé sur la gratuité ou pas très loin.
Et justement, donc là, on était plus sur l'aspect marge de progression, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des aspects réglementaires qui pourraient être incitatifs ? On parle parfois, souvent, de TVA réduite pour des produits réemployés, etc. Est-ce que ça, c'est des aspects qui te semblent applicables ?
Absolument. Ah oui, ça, c'est une vraie marge de manœuvre que, pour l'instant, n'a pas été totalement explorée, hein, puisque la TVA... Il y a une directive européenne qui vient cadrer les possibilités de réfaction de TVA ou de TVA inférieure au taux national sur certains sujets, ouais, et qui, ces sujets n'étant pas exactement ceux de l'économie circulaire. Ouais. Mais c'est certain que la question à travers la fiscalité environnementale, c'est la question du juste prix. Hein. Qu'est-ce qui permet de conférer à un bien, à un service, son juste prix par rapport à la société dans son ensemble. Et on associe souvent, effectivement, l'économie circulaire à des notions telles que l'analyse du cycle de vie.
Hein. Tout à fait.
Donc, il y a une approche globale des services et des produits. Eh bien, c'est une condition importante. Hein. Ça marche sur les deux jambes. Hein. Il y a l'économique, la connaissance environnementale et scientifique et éventuellement l'aspect juridique. Mais le résultat de cette approche, c'est qu'à un moment donné, le prix du marché, on peut constater qu'il n'est pas représentatif du véritable coût d'un service ou d'un bien pour la société. Et donc il y a deux solutions. Soit on va renchérir le coût des biens et services linéaires, avec le risque évidemment de contre-lobbying.
D'une levée de bouclier.
Voilà, on l'a vu sur la taxe poids lourd, par exemple, des choses comme ça.
Les cotaxes, oui, tout à fait.
Et voilà. Ou bien au contraire, on va encourager les comportements vertueux, et donc là on va diminuer. Et c'est ce qui se passe. Et il y a certains modèles, vos confrères ou vos collègues de chez Phoenix par exemple, bénéficient d'une fenêtre de tir tout à fait intéressante. C'est une optimisation fiscale, un encouragement fiscal.
Tout ce qui est don aux associations.
Absolument.
Notamment.
Et donc ça crée du business vertueux. Et donc on pourrait envisager sérieusement de reproduire ce modèle sur d'autres secteurs.
Mmh. Surtout que Phoenix s'amuse déjà à répliquer ce modèle.
Absolument, bah, ça leur a donné effectivement des marges de manœuvre pour le faire.
Oui, tout à fait. Et donc, est-ce que éventuellement tu as d'autres dispositifs ? On a évoqué la TVA incitative ou réduite, mais est-ce qu'il y a d'autres dispositifs auxquels vous avez réfléchi au cabinet ?
Ouais, il y en a un qui est pas très sexy à évoquer. Je m'en excuse parce que c'est un peu complexe. C'est de bien dissocier la réglementation de la norme.
Ok.
Bon, alors là, quand on dit ça, forcément, vas-y, ça paraît très conceptuel.
On va y arriver.
L'approche de ce sujet par le strict faisceau de la règle de droit, la loi, le décret, l'arrêté, c'est totalement obsolète et daté. Alors, si tu veux, c'est bizarre parce que c'est un avocat qui vient de dire ça. Et moi, mon business, c'est la hard law, c'est-à-dire la règle de droit dure.
Ouais.
Mais le vrai outil de promotion de l'économie circulaire, c'est la soft law, c'est le droit souple. Certains vont dire le droit mou.
On va plus dire l'usage finalement.
Oui, c'est-à-dire c'est un processus de fabrication de la, non plus de la règle, mais de la norme qui, de différentes manières, hein, mais va vraiment partir. C'est vraiment une démarche bottom-up. Hein, plutôt que top-down.
Ce qui, pour la France, est un peu compliqué.
C'est encore un concept un peu qu'on a beaucoup tartiné dans tous les sens. Ce qui, pour la France, effectivement, qu'on caricature comme étant jacobine, est quand même un peu compliqué parce qu'il fallait s'intéresser à ce que font les petits gars en province. Mais c'est pourtant, ce qui marche, c'est ça. C'est les quelques expérimentations qui ont été menées là. Et là, pour le coup, c'est une véritable révolution dans la fabrique de la règle. Et ça peut bouger les lignes. Alors, assez rapidement.
Ouais.
Il y a différentes origines possibles. Hein. Ça peut être des choses qui sont normalisées au niveau européen via les normes CEN qui mettent des années à être élaborées, qui passent en France par l'AFNOR. Et là, c'est des choses... on est dans la norme, on n'est pas dans la règle de droit, mais on est vraiment dans une approche très pratico-pratique avec des équilibres complexes sur les différentes parties prenantes, mais qui peuvent déjà être un premier moyen de mettre en avant les pratiques d'économie circulaire. Et puis après, il y a tout ce qui relève d'autres outils de droit souple, guide technique, ça l'administration française adore ça, charte, les Green Deal des Hollandais, par exemple,
dont on a voulu transposer il y a quelques années. Ouais.
Alors voilà, avec une sorte de duplication du ministère de l'Environnement avec le CGEDD, le Commissariat Général à l'Environnement et au Développement Durable,
d'accord,
qui est une autorité administrative et qui n'est pas un ministère proprement dit, et qui fait le lien entre le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Économie et des Finances, de Bercy. Et donc là, on a des gens qui ont une double culture, et je crois que dans un pays où on attend beaucoup de la règle de droit en France, beaucoup du droit, avoir des fonctionnaires et qui ont une pluricompétence, c'est quelque chose de fondamental. Sinon, chacun va raisonner en silo avec ses réflexes et on risque de pas tellement progresser sur ces sujets-là.
Ouais. Et justement, est-ce que t'as un exemple qui pourrait un petit peu illustrer cette différence entre la norme et le... pas l'usage, mais donc comme tu disais...
Oui, et la réglementation ?
Ouais.
Ouais, bien sûr. Bah, typiquement, la réglementation déchets, si on se tient par exemple à la réglementation dite déchets,
ouais,
tu as trois catégories de déchets, les déchets dangereux, les déchets non dangereux et les déchets inertes. Historiquement, traditionnellement, donc avec des seuils à chaque fois. Et donc un déchet qui n'est pas inerte, il peut être non dangereux, et si sa composition dépasse encore certains seuils, il va devenir dangereux. Et donc traditionnellement, un déchet non inerte, donc un déchet non dangereux, n'avait pas vocation à être recyclé ou réutilisé ou valorisé très facilement, parce que on suppose qu'il peut comporter des propriétés pas complètement inertes précisément. Mmh. Eh bien, cette approche, elle va involontairement, mais encourager, maintenir des modèles linéaires. Et c'est par une approche plus souple, par des guides, qui vont partir non pas du statut de la matière, mais des utilisations envisagées. On va regarder, oui, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Alors en France, on est très basique, hein. On est parti des routes, des choses comme ça. Mais c'est les premières illustrations. Et on est en train de les dupliquer maintenant au bâtiment. On est passé du travaux publics au bâtiment. Et dans d'autres secteurs, dans l'aéronautique aussi, c'est une approche qui commence à être mise en œuvre, soit soutenue par des services ou des acteurs publics, soit encouragée d'abord à l'initiative d'acteurs privés, mais qui part de l'usage et qui, pour un usage déterminé, va regarder quels sont éventuellement les risques. Et ça permet de décloisonner certains seuils réglementaires qui pourraient sinon être bloquants.
Et justement, quel est ton point de vue sur les années à venir, mettons dans 5-10 ans? Est-ce que tu penses que les choses vont évoluer rapidement ou on va encore avoir une certaine lenteur dans l'évolution de la règle?
Il y a l'exemple que je viens de te donner, il va polliniser d'autres secteurs. Par exemple, là, les derniers sujets sur lesquels on a travaillé, c'est l'approche assurantielle de ces questions-là. Alors, un assureur sur un produit de réemploi, comment est-ce que il va couvrir? Accepter de couvrir.
On a été sollicité également par les assureurs là-dessus.
Une différenciation concurrentielle d'un acteur de l'économie circulaire, c'est de dire moi, je remets sur le marché des matériaux et en plus, je vous offre une assurance avec. Ou je vous la vends, mais à des conditions performantes. Mais l'assureur, s'il assure uniquement la valeur résiduelle du matériau, il va proposer avec une franchise, ça peut finalement représenter aucun service. Donc il faut aussi acculturer, convaincre ce secteur que la valeur d'usage peut avoir peut-être prise en considération et pas seulement la valeur résiduelle d'un bien qui est déjà amorti s'il a un certain nombre d'années.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Donc on est sur des concepts on est parti du cadre réglementaire, maintenant on est sur le cadre contractuel, conditions générales de vente, assurance, et je pense que progressivement c'est des sujets qui vont concerner l'ensemble des étapes de la consommation, de la production, de l'utilisation d'un bien.
Ok, nickel. Et j'imagine que tu as pas mal d'entrepreneurs, enfin, tu as évoqué pas mal de PME ou ETI qui venaient te voir sur ces aspects réglementaires. Est-ce que tu as des conseils, si tu en avais 3 à donner pour ceux qui souhaitent se lancer dans le domaine, dans l'économie circulaire, dire surtout, faites attention à ces aspects-là avant de vous lancer pleine bille.
Ah, c'est difficile. Paradoxalement, le premier conseil que je donnerais, c'est de ne pas se sentir bloqué par la règle de droit. C'est le comportement des acteurs de la société, et notamment celui des PME innovantes, qui fait évoluer la règle de droit et pas le contraire.
Ouais.
Donc si aujourd'hui...
D'autant plus sur des terrains de jeu qui sont à peine explorés.
Qui sont à peine explorés, absolument, bien sûr. Le design à partir de matériaux de rebut ou de réemploi, c'est encore, pour certains cas, expérimental ou en développement. Mais,
ça me fait penser aussi à un tout autre domaine où Litchi, les fameuses cagnottes en ligne, c'était plus ou moins interdit officiellement. Et puis en fait, elle n'a pas regardé la fondatrice dont je ne connais plus le nom. Elle l'a créé sans savoir ça. Et puis ils ont changé la règle une fois qu'ils ont vu le succès de Litchi. Ah,
tu as tout à fait raison. Une fois qu'un modèle s'est imposé, finalement, il est difficile de trouver des arguments ou le seul argument juridique est assez difficilement crédible pour en empêcher sa poursuite. Ouais. Mais entre-temps, il faut que le modèle ait émergé.
Ouais.
Si on commence par demander à l'administration, on commence par dire « est-ce que je peux ?» Et si on n'a pas la réponse, le risque, c'est que ça soit non ou bien qu'il y ait un certain nombre de conditions qui soient bloquantes.
Donc vraiment, partir du principe que la feuille est blanche et qu'on peut écrire dessus. Quoi.
Absolument. Tout ce qui n'est pas explicitement interdit étant autorisé. Alors, le conseil juridique, évidemment, il peut se justifier pour baliser ce cheminement, mais faut pas que ce soit une source nécessairement d'interrogation ou d'hésitation. Après, le deuxième constat que je fais, c'est que les modèles qui fonctionnent durablement, ce sont tout de même ceux qui font pas essentiellement appel à des subventions publiques. Même si là, je sors du champ du conseil strictement juridique, on a vu que en matière d'économie circulaire, il y a des, en matière d'économie en général, il y a des modèles qui fonctionnent parce que ils ont
c'était grassement subventionné.
Ils sont grassement subventionnés, exactement. Alors ça généralement, ça n'a qu'un temps, parce que la direction que prend l'Union européenne, c'est quand même de passer au filtre de la DG concurrence, la plupart des projets. Et notamment, quand j'évoquais les arrêtés de sortie de statut de déchet, cette espèce d'objet juridique un peu bizarre, paradoxalement, c'est plus la DG Concurrence européenne qui est sollicitée pour avis que la DG Environnement, que la Direction Générale Environnement. Ce qui montre que alors, on est quand même dans une logique de libre concurrence, de libre marché. Donc les modèles qui fonctionnent, ce sont ceux qui ont une maturité économique à plus ou moyen terme. Après, il y a des niches réglementaires qui font fonctionner des modèles. On en a évoqué une tout à l'heure. Il y en a une autre aujourd'hui dont on parle beaucoup, sur la reprise des déchets du BTP, des déchets des artisans. Ça a généré aussi des modèles économiques nouveaux et des offres en économie circulaire, via notamment toutes les offres dématérialisées type application iPad et autres. C'est évidemment quand même aussi à prendre en considération. Hein, le cadre réglementaire peut encourager ou favoriser certains modèles.
Donc, premier aspect, considérer que c'est la feuille blanche et qu'on peut écrire dessus. Deuxième aspect, essayer d'être autonome économiquement parlant. Et troisième conseil éventuel.
Eh bien, être en veille, quand même garder une veille sur les tendances françaises et européennes en la matière, qui peuvent quand même aujourd'hui, avec des outils tels que le paquet économie circulaire de l'Union européenne qui a été diffusé cette année 2018, on a quand même des outils qui permettent, à condition de savoir les lire, mais d'anticiper sur les tendances lourdes de ce modèle, non pas conjoncturel, mais que je considère structurel et structurant, qu'est le développement de l'économie circulaire.
Génial, bah, en tout cas, merci pour cet entretien.
On a tenu la route, là, c'est bon ?
Nickel, je pense que c'était très intéressant. Et puis, bah, très bonne continuation à toi.
Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin.
Partagez-le autour de vous et notez-le 5 étoiles sur iTunes pour le diffuser auprès du plus grand nombre. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet épisode, notre invité ou nos services, contactez-nous par mail à hello@circulab.com.
C'était Justine Laurent et Brieux Saffré pour le podcast Activer l'économie circulaire. À bientôt pour un prochain épisode.